bilan 2024 et perspectives 2025. Radio de la Paix analyse pour vous les faits marquants de l'actualité de l'année écoulée et se projette pour la nouvelle année entamée. Bilan 2024 et perspectives 2025, ce sont des émissions spéciales à suivre sur la fréquence de la paix.
L'année 2025 s'annonce pour la Côte d'Ivoire sur fond de beaucoup de défis, notamment électoraux, avec l'élection présidentielle et les législatives. La plateforme alternative citoyenne ivoirienne l'a si bien compris qu'elle s'était déjà engagée depuis 2024 pour des actions de sensibilisation en vue d'élections sans encombre. Sa présidente, Plucherie Gbalé, est notre interlocutrice pour le bilan 2024 et les perspectives 2025.
Junior Cardin.
Madame Plucherie Gbalé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous entamons la nouvelle année 2025 et nous voudrions avec vous faire le bilan de l'action de votre plateforme et puis aussi parler du processus politique national de façon générale. En 2024, on y est ?
Oui.
D'accord. Et sur votre plateforme, quels ont été les principaux engagements et actions menées au cours de l'année 2024 ?
Notre objectif au cours de l'année 2024, c'était de faire de la sensibilisation sur la paix et puis aussi sur les critères qui devaient motiver les choix des citoyens pendant les élections. C'était un de nos principaux objectifs pour l'année 2024, pour être sûr que la population arrive en 2025 avec quand même un minimum qui lui permette de faire des choix responsables. Malheureusement, on n'en a pas eu les moyens, donc on a fait une sensibilisation sur les réseaux sans pouvoir aller véritablement sur le terrain. Le deuxième objectif, c'était de former nos membres, parce que en 2025, il y aura les législatives après la présidentielle. Et comme nous estimons que le travail des députés n'est pas tel que nous le souhaitons, nous voulons susciter des candidatures indépendantes. Donc déjà, le 19 août 2023, on avait commencé à encourager nos membres à se préparer pour les législatives, pour ceux qui avaient des chances de gagner quelque part. Donc, cette année 2024, on a formé nos membres avec l'appui du député Assalé Temoko pour leur donner eux aussi tous les rudiments qu'il fallait avoir pour se préparer à être de bons députés si possible. La troisième chose, c'est par rapport à la politique nationale. 2024 étant une année préélectorale, il était important de stimuler le débat politique sur les questions essentielles. Donc, le 22 juin 2024, nous avons organisé ce que nous avons appelé une journée de consultation populaire qui a réuni les partis politiques et une partie de la société civile pour venir partager sur leurs propositions pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Nous avons enregistré la présence de tous les partis politiques en dehors du RHDP et une centaine d'organisations de la société civile. À l'issue de cette journée, nous avons fait une synthèse des propositions que nous avons partagées avec toutes les institutions, principalement la présidence et aussi les partenaires techniques et financiers. Donc, voici principalement ce que nous avons fait cette année en dehors de nos activités classiques qui consistent à encadrer les populations victimes d'injustice. Donc, on a beaucoup travaillé sur les déguerpissements cette année. Et puis, en dehors de nos directs, qui permettent de rendre compte à l'opinion sur ce qui se passe dans notre pays.
D'accord. Et puis, quels sont selon vous les acquis majeurs pour les citoyens grâce à votre action cette année 2024?
Bon, nous pensons que nous avons été d'un soutien appréciable aux déguerpis qui ont été mis dans cette situation sans qu'il n'y ait de mesures d'accompagnement. Nous avons été d'un très grand soutien pour eux. Nous avons d'ailleurs créé une coalition qu'on a appelé Coalition des victimes et menacées de déguerpissement de Côte d'Ivoire, qui est très active et qui a aidé en tout cas beaucoup les déguerpis. Nous pensons aussi avoir facilité le réveil de l'opposition par rapport à la nécessité de prendre des initiatives en 2024 ou 2025. Parce qu'après notre journée de consultation populaire, nous avons constaté que le débat sur l'unité de l'opposition s'est relancé. On a vu ça et là des initiatives de l'opposition parce que nous avons estimé qu'il n'était pas normal que 2024 se passe sans qu'il n'y ait d'initiative qui nous rassure pour 2025. Malheureusement, bon, ça n'a pas été suffisant. mais nous pensons que nous avons aidé à, on va dire, booster le débat politique en réalité, surtout par rapport à la nécessité d'un dialogue inclusif, parce que c'était la recommandation majeure de cette journée de consultation populaire.
Merci. Donc, Plus-Éric Ballet, nous allons maintenant aborder les activités politiques, ou si vous voulez, le processus politique en Côte d'Ivoire. Et comment vous évaluez le climat politique en 2024, notamment en termes de dialogue entre les acteurs politiques?
Oui, pour nous, 2024 a été une année très décevante dans ce sens-là, parce que en sa qualité d'année préélectorale, c'était l'année où tout le dialogue politique avait sa place pour essayer quand même de désamorcer tout ce qui pouvait être des sources de conflits en 2025. Malheureusement, il n'y a pas eu de dialogue politique. Le dernier dialogue politique a pris fin en mars 2022, donc 2 ans après, aucun dialogue politique et nous entrons dans une année électorale. Donc pour nous, 2024 a été très décevante du point de vue du dialogue politique. Par rapport au processus électoral, nous estimons que la CENI n'a pas travaillé de façon participative. Non seulement elle n'a pas travaillé de façon participative, mais elle a démontré qu'elle n'était pas indépendante. Et donc, ça a mis à mal sa crédibilité par rapport à toutes les opérations qu'elle a menées, notamment la révision de la liste électorale qui a été très, très mal organisée. Donc, nous pensons que, au plan politique, en tout cas, 2024 n'a pas tenu ses promesses.
L'entrevue Radio de la Paix.
Et en ce qui concerne la participation citoyenne dans les décisions politiques, est-ce que selon vous, cette participation a progressé?
Elle a même régressé. Elle a régressé parce que on était en train d'élaborer une loi sur la société civile. Et de façon unilatérale, le président a décidé de prendre une ordonnance. Dans l'exposé des motifs de cette ordonnance, il est inscrit que les organisations de la société civile ont participé au processus. En tout cas, nous n'en savons rien, on n'a pas été associés. Donc, on affirme que toute la société civile n'a pas été associée à ce projet. Donc, nous pensons que la participation citoyenne, du point de vue politique, a vraiment régressé. Même par rapport à la RLE, c'est à 2 semaines de la révision de la liste électorale que les organisations de la société civile qui ont été choisies par la CEI ont eu les moyens d'aller sensibiliser. C'est trop court, mais je ne crois pas qu'en 2 semaines, les organisations de la société civile puissent avoir l'impact souhaité. Il aurait fallu le faire plus tôt, mais bon. C'est eux qui décident. Mais sinon, je pense que la participation citoyenne n'a pas évolué du tout dans les prises de décision, oui.
D'accord. Pour finir avec ce volet, Plus-Éric Ballet, quelles sont vos observations sur les initiatives gouvernementales pour renforcer la démocratie et les droits de l'homme en 2024?
Par rapport à la démocratie, je n'ai pas observé d'initiative qui aille dans le sens du renforcement de la démocratie, puisqu'il aurait fallu créer les conditions de la participation de tous les acteurs. Ça n'a pas été le cas puisqu'il n'y a pas eu de dialogue politique. Et comme je vous disais tout à l'heure, toute la société civile n'est pas associée à tout ce qui se fait. Donc, du point de vue démocratique, je pense qu'on n'a pas avancé. Du point de vue des droits de l'homme non plus, puisque il n'y a pas eu d'ouverture de l'espace civique. Au contraire, ça a été de plus en plus restreint. Les marches, les manifestations ne sont pas autorisées, alors que selon la Constitution, il n'y a pas besoin de demander une permission, mais c'est d'informer l'autorité pour qu'il encadre. Il y a eu des prisonniers après la marche contre la cherté de la vie. Et puis, il y a ce phénomène inquiétant qui est celui de voir les éléments de la police enlever les gens au lieu de les convoquer. On va chez eux, on les enlève. Ça s'est fait avec le ministre de Social Rodel du PPACI, avec le secrétaire général de l'UNESCO, une organisation estudiantine, et récemment avec le cyberactiviste Gala Kolebi. Donc au niveau des droits de l'homme, il y a de graves violations qui vont à l'encontre de nos procédures, sans ajouter les déguerpissements abusifs, qui sont aussi de très, très graves atteintes aux droits fondamentaux de l'homme. Ce sont des atteintes à la dignité humaine, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Tous les droits sont bafoués à travers ces déguerpissements abusifs. Donc, du point de vue des droits de l'homme, là aussi, il y a beaucoup de choses à redire qui font que nous pensons qu'on n'a pas avancé du tout. Au contraire, on a régressé.
À vous entendre parler, Plus-Éric Ballet, on pourrait penser que le tableau est noir, totalement
oui,
noir.
Oui, il est très noir. Il est très noir et il est très inquiétant. Il est noir et il est inquiétant. Normalement, l'ordonnance qui a été prise contre la société civile, soit dit-on pour l'organiser, ne devrait même pas être et dans le fond et dans la forme. Donc, quand je parle, ce n'est pas parce que je suis alarmiste, mais les faits sont là et c'est vraiment inquiétant. On se demande, avec tout ce qui se passe, comment 2025, qui est une année électorale, va se passer, surtout qu'il n'y a aucun dialogue.
Bon, pour finir, nous allons entamer maintenant le volet des perspectives. Et quels sont, selon vous, les défis prioritaires pour votre plateforme en 2025?
Bon, pour notre plateforme, vous savez, nous, on travaille sur fonds propres. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets, mais nous travaillons malheureusement sur fonds propres, ce qui fait qu'il est difficile pour nous de mobiliser suffisamment de moyens pour travailler. Donc, le premier défi pour nous, c'est la recherche de financement. Le second défi, c'est d'arriver, malgré le contexte, à avoir un impact positif sur le processus électoral, de sorte à contribuer à ce qu'il soit inclusif, transparent et apaisé, toujours en continuant de faire nos analyses, nos propositions, si on veut bien nous écouter.
Et selon vous, quelles sont les attentes des citoyens ivoiriens pour l'année 2025 et comment votre plateforme Alternative Citoyenne Côte d'Ivoire compte-t-elle y répondre?
Nous pensons qu'au niveau national, il y a plusieurs défis, mais on va en retenir quatre. Le premier, c'est que le rôle d'un gouvernement qui doit lutter contre la pauvreté et qui a mis des milliers de familles dans la rue à travers les déguerpissements abusifs, il faut des mesures d'urgence. Des mesures d'urgence pour donner la chance à un maximum de familles de retrouver une vie normale. Ça, c'est au plan social. Toujours au plan social, la qualité de la vie est toujours présente. Il faut vraiment que le gouvernement voit dans quelle mesure on peut intervenir sur certains points, comme ça se fait dans les autres pays, le prix du riz, le prix de l'huile, d'autant plus que nous-mêmes sommes producteurs d'huile de palme. Donc vraiment, il y a des denrées sur lesquelles l'État pouvait faire un effort pour que les mesures qui sont prises par le ministère du Commerce soient efficaces. Parce que le ministère du Commerce prend beaucoup de mesures, mais sur le terrain, elles sont inopérantes et le peuple continue de souffrir. Au plan politique, le dialogue politique est important. Il est même impératif qu'il se tienne avant la fin du premier trimestre 2025 parce que selon les décisions qui seront prises, il y a des modifications constitutionnelles ou de lois qui risqueraient d'être nécessaires. Alors que selon les textes internationaux, 6 mois avant les élections, on ne modifie pas la loi électorale. Donc ce dialogue-là, c'est vraiment un impératif pour trouver des compromis sur tout ce qui pourrait être des sources de conflits en 2025. N'oublions pas que nos plus graves crises sont électorales. La quatrième chose, c'est vraiment la réforme de la CEI. Parce qu'il y a eu une recomposition de la CEI, pas une réforme telle que recommandée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans son arrêt qui a été pris le 18 novembre 2016. Donc il faut une réforme de la CEI parce qu'elle est au cœur de nos crises électorales et nous pensons qu'il faut que la CEI soit vidée de tous les politiques. On ne veut plus de politique dans la CEI, c'est vraiment important. Et il faut faire un appel à candidature pour renouveler le personnel de la CEI afin que nous puissions avoir des élections crédibles et transparentes. Voilà. Donc voilà les quatre propositions que nous pensons faire pour 2025.
Merci donc à vous, Plucheri Gbale, et à bientôt.
Merci à vous aussi.
Cette entrevue avec Plucheri Gbale, présidente de la plateforme Alternative Citoyenne Ivoirienne, a été menée par Junior Cardin.
C'était votre émission spéciale Bilan 2024 et Perspectives 2025 sur Radio de la Paix.